Ce matin, on est dans le 18e message, dans l'épître aux Romains. C'est toujours Romains chapitre 8, c'est le second message sur 3 dans Romains chapitre 8. Et nous sommes au verset 12. Les versets 12, on va se terminer avec le verset 28, mais vraiment je vais entrer dans le verset 28 la prochaine fois. Dans Romains chapitre 8, on est au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ok, donc, Paul a commencé ce chapitre. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de vie en Jésus-Christ par son Esprit qui habite en nous. Donc, c'est différent. OK? Et puisque, aussi, donc, premièrement, le Saint-Esprit est en nous pour nous faire vivre, mais aussi, donc, il a dit à la fin de notre texte la dernière fois, que Dieu va ressusciter nos corps. Ça fait partie de la foi, de l'espérance chrétienne, que Dieu ressuscitera les corps. Donc, il va ressusciter tout le monde, mais pour nous, il va nous ressusciter dans un corps transformé et adapté à cette vie céleste. Et donc, sur ces idées-là, Paul va affirmer, comme j'ai déjà lu, verset 12, « Ainsi donc, okay? Puisque l'Esprit de Dieu est en nous pour nous faire vivre, et puisque nous allons, que nos corps vont être ressuscités pour participer à la gloire céleste, eh bien, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Okay? Nous ne sommes pas en dette à la chair pour satisfaire les désirs de notre humanité. Alors, chapitre 7, Romains chapitre 7, a bien dit que oui, on est en conflit, c'est vrai. Mais ce n'est pas qu'on est obligé. On n'a aucun devoir envers la chair pour accomplir ses désirs. Donc, nous ne devons rien à la chair. Okay? Donc, à comprendre, dans le passé, vivant dans la chair, quel était notre avenir? La condamnation. Maintenant, sauvés en Jésus-Christ, nous avons quoi? Un avenir céleste. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant, pendant qu'on vit encore sur la terre? On n'est plus sous la condamnation, on n'a qu'un avenir de gloire, mais là, actuellement, comment allons-nous vivre? Verset 13, la première partie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Donc, si vous poursuivez, maintenant que vous êtes sauvés, si vous poursuivez une vie non chrétienne, ok, dans ce cas-là, il dit vous mourrez, c'est-à-dire vous accélérez votre mort, vous frôlez la mort. Pourquoi? Bah, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans le sens pratique comme dans le sens spirituel. Nous, on ne va plus mourir spirituellement parce que Dieu nous a fait vivre en Jésus-Christ, mais quand même dans la chair. On frôle la mort si on insiste de vivre comme les non-chrétiens. Donc, on va revenir sur cette idée tout à l'heure, mais l'idée qu'il veut dire là, c'est que quelle est l'utilité de notre vie? Dieu nous a sauvés pour servir. Et si on ne veut pas servir? Si on veut vivre pour nous-mêmes, quelle utilité pour Dieu? Pas d'utilité si nous voulons vivre autrement que dans le plan de Dieu. Okay? C'est ça l'idée-là. Donc, verset 13 et la deuxième moitié. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Okay? Donc, si par l'Esprit on considère nos désirs humains, que tout ce qui est attaché à notre corps, comme mort, eh bien, nous allons vivre. On est utile pour Dieu. OK? Donc, il est vrai que nous sommes déjà des enfants de Dieu par son esprit. Okay? On est déjà nés du nouveau. On a déjà la vie de Dieu en nous. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, qui sont ceux-là? Ben, c'est les enfants de Dieu, c'est les gens nés de nouveau, c'est les croyants en Jésus-Christ. Nous sommes conduits, nous sommes menés par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants, les fils de Dieu. Donc, on a trois expressions, peut-être d'autres. Par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais, voilà, nous n'agissons pas toujours comme de bons enfants. C'est pareil avec nos propres enfants. Si vous avez des enfants, parfois, les enfants font les choses qui vous font de honte ou qui vous fâchent. Eh bien, c'est ça aussi, nous, avec notre Père Céleste. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. Nous pouvons éteindre l'Esprit, c'est-à-dire la flamme, le zèle qui a mis en nous à cause de nos péchés et nos attitudes. Donc l'idée, c'est que l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous désirons faire plaisir à notre Père. Nous voulons, ou nous devrions vouloir, accorder nos habitudes avec les habitudes de notre cher Père. C'est pendant ces moments-là, quand nous sommes en accord avec Dieu, eh bien c'est à ce moment-là que nous agissons vraiment comme ses enfants. Nous sommes ses enfants. Mais c'est à ces moments-là que nous agissons vraiment comme ses enfants. Voilà ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 1. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ok, donc marchez selon l'esprit. Faites le nécessaire pour plaire à Dieu et que cela, c'est cela ce que vous faites. Donc, oui, vous avez appris comment vous conduire et comment plaire à Dieu et vous vous conduisez bien et vous plaisez à Dieu. Donc, pour continuer, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Continuer et progresser. Donc dans le verset 15, nous apprenons que Dieu ne nous a pas donné un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption. OK? Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être heurter ce que vous avez peut-être pensé auparavant. Cette idée de crier, c'est de dire des choses avec une voix forte. Okay? Ce n'est pas « Oh, papa, si tu veux !» Mais c'est plus une voix forte dans l'état brut. Et nous élevons nos voix et dit « Abba, Père !» C'est plus comme ça, okay, que ça veut dire. Donc ce verset vise premièrement le fait que par l'Esprit qui est en nous, nous avons une relation avec Dieu. Nous pouvons prier Dieu et Dieu va nous entendre. Ça c'est le premier côté. Mais d'après l'image de ce mot, donc le mot veut dire comme un corbeau, hein, crier comme un corbeau. Eh bien, d'après l'image de ce mot, Dieu, il entend nos prières, mais ce sont comme des sons rauques et incultes, fortes et peut-être émotionnels. Heureusement, le Saint-Esprit va traduire nos prières pour qu'ils arrivent dans la bonne façon, la bonne forme devant Dieu. OK? Donc je vais relire le début du verset. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Okay? Les chrétiens mal affermis montrent souvent ces deux fautes, donc deux fautes non chrétiennes, la servitude et la crainte. Okay? Premièrement, la servitude. Ils pensent à tort qu'ils sont devenus, quand ils convertissent à Jésus-Christ, ils pensent à tort qu'ils sont devenus des esclaves qui n'ont plus d'individualité, plus de choix, plus de personnalité. Il y a même des églises qui profitent de cette mauvaise pensée pour obliger leurs membres d'agir selon les désirs humains religieux. Par exemple, les responsables imposent des règles vestimentaires, des sommes financières, la participation obligatoire dans certaines activités de l'Église. Tout cela est faux. Dieu désire en toutes choses une participation remplie de bonne volonté et sans contrainte. Nous agissons parmi nous dans la fraternité de bonne volonté. Puis il y a ce second mot, c'est le mot crainte. Et donc le mot crainte, c'est le mot phobos, donc phobia, qui veut dire la panique, la terreur, l'alarme. Et ce n'est pas le mot que nous voyons vers la fin de l'Épître aux Hébreux, que nous avons du respect pour Dieu. Nous nous approchons de Dieu avec du respect. Ce n'est pas ce mot du tout, c'est un autre mot, crainte ici. La crainte est liée à cette fausse idée d'esclavage. C'est la peur d'attirer le jugement de Dieu, l'inquiétude de ne pas vivre selon ce que nous imaginons sont les attentes de Dieu. Et ce sont des idées que nous nous imposons sur nous-mêmes ou d'autres personnes imposent sur nous. On pense que c'est ça que Dieu veut de nous. Et donc, on a peur de ne pas atteindre cet objectif. Le chrétien mal affermi, il vit sous la crainte de ne pas mériter la grâce. On ne mérite pas la grâce, mais il a cette crainte de ne pas la mériter ou de perdre son salut s'il n'arrive pas à atteindre cette genre de perfection ou conduite qu'il a imaginée nécessaire. En fin de compte, la crainte entraîne l'instabilité dans l'esprit et aussi dans la conduite. Okay? Les païens sont souvent terrorisés par le surnaturel avant de se convertir, comme les gens qu'on a mentionnés dans les Philippines. Être motivé par la crainte, c'est l'opposé d'être motivé par la foi. Par la foi, nous agissons avec le désir de plaire à Dieu, mais non pas dans la crainte de déplaire à Dieu. Et donc, quand on a crainte, on a peur de subir une punition. La foi encourage ou la foi nourrit une attitude de bonne volonté et ainsi elle entraîne la stabilité dans l'esprit et dans la conduite. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne soyez pas plein de phobie, crois seulement. L'apôtre Jean a même expliqué en disant, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un chrétien, mais c'est pour dire qu'on a du progrès à faire pour comprendre bien le salut. Ça, c'est dans 1 Jean 4, 18. Rappelons-nous la conclusion de Paul au début du chapitre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si la crainte suppose une punition, Eh bien, Paul a déjà dit qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Certes, Paul vient de dire, dans le verset 13, que celui qui vit d'après des impulsions naturelles accélère sa propre mort. Alors, disons, un chrétien, par mégarde, on va dire, il va dans une fête, il s'enivre, il prend la voiture, et puis il se tue. Voilà, il a accéléré sa mort. OK? C'est ça l'idée. Si on agit selon la chair, bah oui, la mort est devant nous, peut-être. De toute façon, la mort est devant nous tous, mais on va arriver plus rapidement. Et c'est pour cela que Jésus nous a promis un consolateur. Qui est le consolateur? C'est l'Esprit de vérité. Il est venu pour nous condamner? Ah ben non. Pour nous aider. Nous pouvons plaire à Dieu grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité, le pouvoir, la façon, la connaissance, comment plaire à Dieu. Depuis le jour de la Pentecôte, le Consolateur habite chaque, tout croyant, et les unifie tous ensemble dans le corps de Christ, dans les lieux célestes. Par la purification de nos péchés et la présence du Saint-Esprit, nous nous approchons de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Dieu veut qu'on vienne avec nos prières, nos besoins, nos requêtes, etc. Donc, le verset 15 nous assure que Dieu entend nos prières. Ça, c'est une certitude absolue. Dieu entend nos prières. Il les entend et il peut les exaucer ou ne pas les exaucer. C'est dans son plan. Mais en tout cas, il vous entend quand vous lui parlez. Ça, c'est déjà bien. Dans le verset 16, il dit que l'Esprit nous rassure. L'Esprit lui-même rend témoignage, donc ce mot témoignage, c'est il atteste, il confirme avec les preuves. C'est ça que ce mot veut dire, témoignage, c'est confirmation avec les preuves. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas un sentiment, ni une manifestation physique, ni matérielle. C'est une affirmation de la vérité que nous constatons par la lecture de la parole de Dieu. Donc, ici, dans ce verset, il a dit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage par les preuves à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, ces preuves sont dans la parole de Dieu. Par exemple, si nous lisons dans Jean chapitre 14, 15, 16 et 17, il y a plein de choses qui parlent du Saint-Esprit, comment il va être dans les croyants une fois que Jésus est mort, ressuscité et remonté au ciel. D'autres versets, par exemple, Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Actes chapitre 16, verset 31, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Eh bien, la réponse, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et le texte dit, c'est pareil pour toute la famille, pour tous vos amis. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé. Le salut, c'est simplement croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, que doit-on faire avec ces vérités? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut les croire. C'est tout simple, il faut les croire. Dieu cherche votre confiance. Okay? Je donne un autre verset qui parle de ça. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans la Bible. Croire en Jésus-Christ, croire dans la vérité, croire dans la parole, eh bien, vous devenez enfant de Dieu. Aussi dans 1 Jean chapitre 3, la première partie du verset 1, 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il continue, et nous le sommes. Ce n'est pas pour le futur. C'est déjà à partir du moment que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Or, il dit dans le verset 17, si nous sommes enfants, donc supposons, sous-entendre, et nous le sommes, ok? Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes hérités. Du fait qu'on est enfants de Dieu, on a un héritage céleste. Héritage de Dieu, héritage, co-héritage avec Jésus-Christ. Et puis, il y a cette expression, si toutefois. Ça nous gêne tous. Oh, si je ne souffre pas, est-ce que je vais perdre mon héritage? C'est pas le point, non. Cette dernière expression, si toutefois, etc., laisse entendre que parfois les chrétiens n'agissent pas comme les enfants de Dieu. Et ça, c'est vrai pour nous tous, ok? Parfois, pour maintenir notre tout confort, ça c'est une expression qu'on aime, enfin, tout confort, n'est-ce pas? Eh bien, on va hésiter de reconnaître Dieu. Oh, je ne vais pas mentionner le nom de Dieu. Ah, je me souviens, mon fils, pour le bac, son professeur, de son conseil de bac, tout ça. Si vous mentionnez Dieu, tu n'auras pas ton bac. Il lui a dit ça, cru, comme ça. Ok? Parfois, comme Pierre, nous renions, même activement, notre lien avec Dieu. Oui, c'est possible, c'était un des apôtres, il l'a fait. Parfois. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Peur de perdre quelque chose, peur de souffrir quelque chose, peur du regard des autres, peur de la mort. Ben, c'est des possibilités qui sont réelles. Hein? Il y a plein de choses qu'on peut avoir peur de plein de choses. Mais attention, Dieu nous a-t-il donné un esprit de peur ou de crainte? Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Non! Pas de crainte. Et Jésus a lui-même dit, ne crains pas, crois seulement. Ça, c'est dans Marc chapitre 5, verset 36. Alors, on va reconnaître que certainement, nous allons subir des souffrances. Hein? Ce mot souffrance, c'est des choses qu'on subit. Okay? Paul dit, verset 18, j'estime, et ce mot estime, c'est logique de raisonner ou de conclure ou de penser que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, les croyants en Jésus-Christ. Donc, premièrement, ce mot comparé, c'est pas le même poids. Donc, tu as le poids de toutes les promesses de Dieu qui sont extrêmement lourdes, et puis tu as ce petit poids de souffrance là. Il n'y a pas de comparaison entre les deux choses. Donc, le mot souffrance veut dire plein de choses en fait. C'est tout ce que vous pouvez subir. Ce n'est pas simplement, voilà, quelqu'un va vous faire une douleur physique, ok? Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une passion, ça peut être une émotion, ça peut être une patience. Une passion, attendre quelque chose peut être une souffrance. Une peine, une douleur, même une influence peut être quelque chose qu'on subit. Donc, toutes ces souffrances-là, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, si nous évaluons nos craintes quant à nos souffrances, aux choses qu'on pourrait subir, à la lumière de l'éternité, donc si nous réfléchissons sur les promesses de Dieu, nous allons corriger nos pensées, nous allons bannir la crainte par la foi dans les promesses que Dieu nous a données. Même si nos craintes sont réalisées. Alors cette gloire à venir sera reflétée dans la création même. Aussi, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création entière est en attente du règne de Dieu sur la terre. Le temps de rafraîchissement, dans Actes chapitre 3, verset 20, ou aussi appelé le rétablissement de toutes choses, dans Actes chapitre 3 et verset 21. Actuellement, la terre est en état de dégradation continuelle. Verset 20, première partie. Car la création a été soumise à la vanité. Donc ça parle de Genèse chapitre 3. Non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Donc depuis que Adam a péché, le deuxième principe de la thermodynamique est en effet. Tout se dégrade, tout se corrompt, tout se décompose, tout tend vers le chaos, toute chose meurt. La nature est en train de mourir autant que vous et moi, mais bien plus lentement. Les espèces disparaissent, les glaciers fondent, les déserts s'étalent. Il n'y a point d'évolution, il n'y en a jamais eu. Cependant, Dieu promet un avenir spectaculaire pour notre planète. C'est dans la parole. Il promet une gloire future dans le millénium. Donc je relis le début du verset. Car la création a été soumise à la vanité, donc je saute, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc globalement, ceci signifie que Dieu promet d'intervenir. Il est intervenu déjà une fois pour le salut. Et il va intervenir encore une seconde fois pour le royaume de Christ. Donc il a déjà envoyé son fils Jésus qui nous a obtenu le salut, pour ceux qui croient bien sûr. Et Dieu va envoyer son fils une seconde fois. Quand on prend le vœu par le Seigneur, on continue à faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va revenir une seconde fois au chapitre 19 de l'Apocalypse pour démarrer son règne de 1000 ans sur la terre. Mais pour pouvoir accomplir les promesses concernant le royaume, Dieu doit restaurer ou rétablir la nature telle qu'elle était dans le jardin d'Éden. C'est sur notre terre restaurée ou rafraîchie que nous, dans nos corps ressuscités, nous jouirons du royaume de Christ. Et donc, la nature est ici présentée comme une illustration de la patience qu'il nous faut pendant notre vie, en attendant. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le rétablissement de toutes choses, c'est une expression biblique, n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour l'avenir. C'est une promesse sur la base de la toute-puissance du Dieu créateur. La restauration de notre planète ne va pas prendre des milliards d'années, ni même des centaines d'années. Ça va prendre seulement quelques jours. Et comme pour toutes les promesses, il faut croire et il faut attendre. Il nous faut de la patience. Verset 23. Ce n'est pas seulement la création, mais nous aussi, qui est-ce nous? Les croyants. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourquoi? À cause de Romains chapitre 7. Nous soupirons à cause de ce conflit en nous continu. Bien que votre esprit est déjà né de nouveau et que nous sommes déjà enfants de Dieu, enfants spirituels de Dieu, nos corps physiques là attendent toujours la promesse de la résurrection. Ça, c'est toujours à l'avenir. Dans nos corps ressuscités, nous participerons au royaume de Christ. Or, quelques-uns dans l'église de Corinthe ont abandonné l'idée de la résurrection. Peut-être avaient-ils plus de patience, je ne sais pas. En tout cas, ils reniaient la résurrection et donc le royaume, et par conséquent, ils reniaient en même temps la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et le futur royaume de Christ. Frères et sœurs, tenez ferme. Tenez ferme. Dieu accomplira toutes ses promesses. Votre salut éternel, votre résurrection, la restauration de la nature, le royaume terrestre de Jésus-Christ pendant 1000 ans, et par la suite, des nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle le royaume de Dieu continuera pour l'éternité. Il vous faut de la patience. Et il vous faut de la confiance. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Le plus longtemps nous devons attendre, le plus nous devons persévérer dans la foi. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ou on peut le traduire, et puisque, ou dans la mesure où nous espérons ce que nous ne voyons pas, bien sûr, nous l'attendons avec persévérance. OK? Nous avons l'espérance et donc il faut persévérer. Donc, frères et sœurs, comme j'ai déjà dit, il faut tenir ferme. Dieu tiendra toutes ses promesses, mais il faut patienter, il faut attendre avec persévérance. Alors, pour Dieu, le temps n'est pas un problème. Hein? Dieu n'est pas soucié pour le temps. Nous, oui, oh, c'est presque midi. Mais, par exemple, pour Abraham, Dieu a dit, Abraham, je te donne ce territoire-là, ce terrain, c'est à toi. Ben, attention, il faut attendre 500 ans. Ben, bien sûr, Abraham allait être déjà mort depuis quelques siècles quand ses enfants allaient hériter ce terrain-là. Dans le contexte du futur jugement et la patience de Dieu, Pierre dit dans 2 Pierre 3, 8 et 9, il dit, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Pour Dieu, le temps ne compte pas. Pour nous, oui, ça compte beaucoup, mais pour Dieu, non. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que faire? Patienter. Continuez à vous confier dans les promesses de Dieu. La chose, c'est que, puisque nous sommes dans la faiblesse, nous avons des inquiétudes. Et donc, Dieu dit, l'Esprit va nous aider. Qui nous aide? OK, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous prions, mais nous ne savons pas vraiment comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne sommes que chair. Et il sait qu'on a besoin de lui. Donc on doit être reconnaissant que le Seigneur nous a donné son consolateur. Okay? Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés à nos propres ressources. Il nous a donné le Consolateur, donc l'Esprit, il nous conduit. L'Esprit atteste. L'Esprit, il dit ici dans ce verset, nous aide et il intercède pour nous. Je veux dire simplement aussi, parce que ça concerne beaucoup de monde, que ce verset n'a rien à voir avec ce que certains appellent faussement le parler en langue. Okay? Premièrement, leur activité ne correspond pas du tout à la description des langues décrites dans Actes chapitre 2, versets 8 à 11. Et puis, le charabia qu'ils utilisent quand on les entend parler, okay, par les gens de leur entourage, ce sont des bruits. On entend des bruits, bien sûr, qui sont inintelligibles, mais ils ne sont pas des bruits non exprimés. Ce sont des choses qu'on entend, donc ils ne sont pas des soupirs inexprimables. Ils sont exprimés. Non, ici dans ces deux versets, la parole de Dieu dit que devant le trône de Dieu, dans les lieux célestes, le Saint-Esprit parle directement au cœur de Dieu parce que le Saint-Esprit est en communion avec le Père. Nous prions avec nos sons, avec nos pensées, avec nos cris qui sont crus et le Saint-Esprit traduit. Il interprète, il intercède et il met ça exactement comme Dieu a besoin d'entendre nos prières. Verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Père céleste, connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc ce verset explique pourquoi Dieu entend toutes vos prières, bien qu'il ne semble pas très souvent répondre à vos prières. Il entend toutes vos prières. Et en réalité, il répond à toutes vos prières, mais on ne le voit pas, car vos prières dans leur forme humaine sont assez inexactes. Il a dit, on ne sait pas comment exactement prier, par rapport aux véritables besoins que nous avons, et selon le plan de Dieu, nous prions, mais le Saint-Esprit met ça dans la façon que Dieu peut toujours répondre à nos prières. Et donc Dieu les exauce selon son plan. Et je laisse avec cette pensée, verset 28, qu'on va voir la prochaine fois. Nous savons du reste, après toutes ces choses-là, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Okay? Donc on a vu plusieurs choses. Plein de sujets négatifs, rapidement, on a vu qu'il y a la chair, ok? Il y a la servitude, il y a la crainte, il y a la souffrance, il y a même l'attente. Ah, il faut attendre, patienter, ok? Ça, c'est les choses négatives qu'on a discutées un peu. Après, on a vu les autres choses qui sont formidables. Donc, on a l'esprit qui nous accompagne. On a la parole qui nous apprend. On a la foi qui nous aide à avancer. On a la persévérance dans l'attente. On a la prière au Père. Et enfin, on a cette chose qui s'appelle la patience. Okay? On a plein de choses dans ce chapitre. J'espère que ça vous encourage. Que ça ne vous décourage pas. Que le Seigneur vous aide à réfléchir pour bien assimiler ces choses avant qu'on arrive à la prochaine, à la fin du chapitre à partir du verset 28. Okay? Que le Seigneur vous bénisse.